Dimanche 2 janvier 2022. Donc, le message est différé. Pardonnez-moi, oublié d'enregistrer ce matin, mais je vais faire un rapide résumé. Si vous avez un peu envie de suivre le fil. Donc, pour cette nouvelle année, j'avais sorti de notre texte de Luc, de la suite de Luc, chapitre 2, versets 21 à 52, de voir, non pas des bonnes résolutions, mais des points de repère qui peuvent nous être utiles cette année pour bien nous diriger dans cette année, dans la sainteté, dans la sanctification. Notre texte, donc Luc chapitre 2, verset 21. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, l'enfant Jésus, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange, avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir, en sacrifice, deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Alors, il est question beaucoup de loi et de Moïse. Dans ce passage-là, et ça nous rappelle que Jésus est circoncis. Que Jésus est juif, pardon, il a été circoncis, il est juif, né d'une femme, né sous la loi. Pour reprendre l'expression de Paul en Galates chapitre 4, verset 4. Et donc à Bethléem, il avait dû faire la circoncision au moment de sa naissance, enfin sur le lieu de sa naissance. Et donc il va s'appeler Yeshua, Josué, Jésus, Dieu sauve. Jésus est également premier-né consacré à Dieu. On retrouve tout cela en Exode chapitre 13, verset 2, Lévitique 27, 6, Nombre 3, 40 à 51, 18, 16. Donc si vous parcourez ces références, vous aurez tout ce qui concerne l'appartenance à Dieu des premiers-nés, le rachat. Là, il n'est pas question du rachat, mais Jésus était déjà le Fils de Dieu. On peut souligner également que Marie est juive. Il monte au temple pour la purification. Donc, on est 33 jours après. Il monte à Jérusalem, 33 jours après la naissance, au minimum. Et donc, Marie est juive et ils offrent le sacrifice, qui est un sacrifice, normalement, consistait en un agneau, en holocauste plus, un pigeon tourterelle pour la purification. Et là donc, ce n'est pas ce qui sera offert, mais deux pigeons seront offerts parce que Joseph et Marie étaient pauvres, et dans le cas des pauvres, donc on demandait le strict minimum pour l'holocauste, c'est-à-dire un pigeon ou une tourterelle. Donc on a déjà deux points de repère importants dans ce passage. Ça nous rappelle que Jésus est juif. Et nous autres chrétiens, on a besoin de se souvenir de ça, parce qu'on aurait vite fait de nous accaparer Jésus. Et pour Marie, c'est pareil, Marie était juive. Hélas, dans l'histoire de l'Église, souvent les chrétiens sont versés dans l'antisémitisme. Ce qui n'est pas du tout acceptable quand on lit des textes comme celui-ci, où il est évident que Jésus est né dans une famille juive. Et donc, il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Donc, on est obligé d'avoir de l'estime, de l'affection pour le peuple juif, à cause de Jésus-Christ. La famille de Jésus est pauvre également, et ceci nous rappelle que si on est pauvre, on n'a pas à en avoir honte. Et pour les autres, ne jamais concevoir de mépris pour les pauvres, pour celui qui serait pauvre. Et c'est très facile à faire, parce que l'ambiance nous y porte, la mentalité ambiante nous y porte. En Europe, on est champion pour considérer les pays sous-développés comme des pays qui ne savent pas se débrouiller, qui ne savent pas faire, etc. Et donc, on exprime souvent à leur encontre une forme de mépris du pauvre. Et donc, c'est pas ce qui convient. Hein. L'Église occidentale est fragile par rapport à cela. Hein. On fait plutôt la promotion de la réussite. Et voilà, c'est quelqu'un qui est spirituel, il va réussir. Et non, c'est pas... Jésus a choisi une famille qui n'avait pas réussi, une famille pauvre. Ensuite, Jésus est attendu par ceux dont on n'attend rien. Et les personnes dont on n'attend rien, ce sont souvent les personnes âgées, les personnes qui sont dans un grand âge, on ne leur demande plus rien. Quelle image ont-ils d'eux-mêmes ? Je ne veux pas parler des parents qui nous sont proches, mais en général, la vision, que le reflet que nous renvoie notre société du quatrième âge, qu'est-ce qu'on entend dire ? Ben, on l'associe, le quatrième âge, à la solitude, on l'associe à la charge que ça constitue pour la société en termes financiers. On parle également de la dépendance. Et si on pose la question aux intéressés, ils nous diraient qu'ils se sentent dépassés. Alors, après les bergers qui sentent mauvais, Dieu veut honorer ici, pour nous, le quatrième âge, à travers un vieux monsieur et une vieille dame. La rencontre va avoir lieu au temple de Jérusalem, là où on rencontre Dieu. Et deux personnes qui sont très différentes et aussi très attachantes. Alors, regardons tout de suite ce qui concerne le vieux Siméon. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut, l'enfant Jésus dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Siméon est anonyme. Luc n'a pas su dire quelle était sa tribu, d'où il venait, de quelle famille il était. Un homme anonyme, mais un homme intime du Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu est sur lui. Et Dieu lui a promis l'exaucement, on peut y imaginer, de ce qui était sa prière. Voir le Messie avant de mourir. Un homme donc très très âgé, on l'imagine, avec sa longue barbe, mais un homme qui a une extraordinaire lucidité spirituelle en ce qui concerne la personne du Messie et en ce qui concerne l'état spirituel de son peuple, du peuple d'Israël. En quelques mots, il résume de façon un peu magistrale les chapitres qui vont suivre dans l'évangile de Luc. C'est une formulation remarquable. Il attendait la consolation, l'encouragement, l'exhortation de son peuple. Et ça se réfère à Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 11, que vous pouvez lire, les avez lu ce matin. La scène touchante ici, c'est quand il reçoit Jésus dans ses bras. C'est moi, dans l'évangile de Luc, c'est le passage le plus touchant pour moi. Et on peut bien sûr imaginer Siméon verser des larmes. Comment ça s'est passé? Il est arrivé au temple et l'Esprit Saint lui a désigné l'enfant. Et là, il doit s'avancer vers Joseph et Marie. Et on peut imaginer Joseph et Marie surpris de ce monsieur qui leur demande de prendre l'enfant dans ses bras. Et Marie a accepté. Et donc là, il rend grâce, louange à Dieu. Et on a un beau rappel que le salut est une personne qui est pour tous les hommes, lumière et gloire d'Israël, lumière pour les païens et la gloire, l'honneur d'Israël. Il honore à son tour Joseph et Marie et donne une prophétie. Donc la venue du Fils de Dieu va être compliquée hein, pour le peuple juif. Ça va pas se passer comme les personnes l'imaginaient. Marie va souffrir. Elle aussi va être prise dans cette contradiction par rapport à ce qu'elle verra de son fils, ou est-ce que c'est parce que elle verra le soldat romain transpercer son fils de sa grosse lance. On ne sait pas. La vieille Anne, maintenant, la suite de notre passage. Il y avait une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Portrait d'une autre vieille dame, une vétérante, connue pour son service entièrement consacré au temple Siméon, semble un inconnu autant Anne. Est bien connue, elle est prophétesse. Et il est dit d'elle, avancée en âge, est-ce que c'est difficile, suivant les traductions, vous trouverez un petit peu les deux idées qui ressortent, et les personnes qui ont traduit sont, semble-t-il, embêtées, est-ce que les 84 ans sont comptés après son veuvage, ou est-ce qu'ils sont comptés depuis sa naissance? Si c'est compté après son veuvage, on a une dame qui a passé la centaine d'années. Mais ça ne change pas grand-chose au sens de notre passage. Il est dit qu'elle ne quittait pas le temple nuit et jour, elle devait avoir un petit coin où elle s'abritait, comme peut-être vous avez déjà vu des SDF dans la rue. Et là, elle avait apparemment tout un réseau de personnes qu'elle connaissait et des personnes qui attendaient comme elle la venue du Sauveur, qui l'attendaient avec la mentalité de Zacharie, qui attendait celui qui allait enfin leur permettre de servir Dieu sans crainte, hein, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie. Et on voit que c'est une dame qui servait Dieu et qui servait par la prière. Le jeûne par le jeûne et par la prière. Alors, quand elle est, comme elle est avertie que l'enfant Jésus était là, ah ben, elle aussi, elle exprime des louanges comme tous les autres, ces histoires depuis le début de l'évangile de Luc. La louange jaillit dès qu'il est question de l'enfant Jésus, dès qu'il est question du Messie, la louange jaillit des lèvres. Et elle parle de Jésus à tous ceux qu'elle rencontre. Elle fait un rôle d'évangéliste, hein, en quelque sorte. Alors, quel point de repère pour nous à travers ces deux personnages? Bien sûr, nous pouvons, nous, cette année 2022, n'oublions pas de mettre à l'honneur les personnes âgées, hein, tout particulièrement les frères et les sœurs qui nous ont devancés dans la foi, qui attendent le Seigneur depuis si longtemps. Les parents, quand on est parents, on a envie du meilleur pour ses enfants, et des fois on voudrait courir partout pour qu'ils aient le meilleur à droite, le meilleur à gauche, et on cherche ce qui est le meilleur pour eux, de bien des façons. Mais ici, le chemin qui nous est montré de la bénédiction, c'est de confier cet enfant entre les mains de monsieur très âgé. Et on a là une très belle image de continuité, de spirituelle, de génération en génération, avec cette personne qui est proche de la mort, et ce bébé qui vient tout juste de naître. Et Joseph et Marie vont être bénis par cette personne-là. Donc, on a une piste là, de bien honorer les personnes âgées. Le Seigneur est venu, il va revenir, attendons-le. Les croyants de l'ancienne alliance attendaient Jésus, et puis tout à coup Jésus était là. C'était, ça n'a pas prévenu, hein. Tout à coup Jésus était là dans le temple, sous forme d'un petit bébé. C'était du jour au lendemain comme ça, hein. Ils n'ont pas su, il n'y a pas eu de décompte, hein, comme on a des décomptes pour la nouvelle année. Non, non, c'est arrivé subitement, et Jésus, il a dit qu'il reviendrait également de façon subite, comme ça, par surprise. Alors, attendons-le, parce que dans son retour, les choses peuvent aller très rapidement. Attendons, avec foi, dans la sainteté, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre point de repère pour cette nouvelle année. Un autre point de repère, ne soyons pas surpris par les souffrances. On voit que Marie a été avertie qu'elle allait souffrir. Pourtant, Élisabeth lui avait dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et cette femme, Marie, bénie entre toutes, allait souffrir. Alors, ne soyons pas surpris. Si en 2022, la souffrance fait irruption dans nos vies, si on la croise sur notre chemin, bon, soyons pas surpris. Pensons à Marie. Un autre point fort, bien sûr, la prière, le service à Dieu, la prière de Anne qui servait en priant. C'était son service. Peut-être dans l'Église, vous dites, oh, moi, j'ai pas de don, de ministère. Mais le ministère de la prière est combien essentiel, l'intercession, combien c'est capital. Et on voit que Anne, c'était son ministère, c'était ce qu'elle faisait. Et cela doit nous parler. L'évangélisation également. La vieille Anne est un exemple que Dieu nous laisse. Son courage, c'est quand on est jeune, tout va bien, on se lève le matin d'un bond, on est en pleine forme, pareil pour la journée, mais quand on est âgé, se mettre à se lever, s'habiller, c'est tout, déjà tout un protocole, c'est tout un travail déjà, et il faut de la volonté, il faut de l'énergie. Et Anne n'avait pas cette idée comme Siméon de partir. Non, elle avait cette idée d'annoncer la bonne nouvelle, que le Messie était là. Et c'est formidable, elle avait tout un carnet, tout un réseau de connaissances, et qu'elle va leur dire, donc elle utilise une méthode d'évangélisation, hein. Elle annonce le Messie à ceux qui l'attendent. Et c'était certainement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. C'était exactement ce que le Seigneur attendait d'elle, je pense. Annoncer le Seigneur à ceux qui l'attendent, c'est ce que Dieu a fait avant. Et ça doit nous encourager à porter l'Évangile, à annoncer l'Évangile avec intelligence, de façon adaptée aux circonstances dans lesquelles nous sommes. Donc, pour cette nouvelle année de 22, pensons à l'évangélisation, ne nous laissons pas abattre, parce que les circonstances ne sont pas bonnes, il y a le Covid, voilà, on ne sait pas, peut-être le Seigneur va revenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Non, annonçons l'Évangile, annonçons avec intelligence. Dernier passage, versets 39 à 51. Lorsqu'ils eurent accompli ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Donc le temps avance vite là avec Luc. Matthieu insère tout un passage là, toute une séquence. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques, et lorsque il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin. Et puis ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et se dirent « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Jérusalem et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses au fond de son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus est le Fils de Dieu. Ce passage nous le rappelle. Alors c'est naturel pour les enfants, pour les parents, excusez-moi, de surveiller les enfants, de s'inquiéter d'eux. Bien sûr, c'est leur responsabilité. Et je pense que dans ce passage, Joseph et Marie remplissent bien leurs devoirs. Il n'y a rien à dire. On les voit, ils sont pas hyper protecteurs. Et puis, ils le cherchent. Ils s'inquiètent de lui. Ils le recherchent avec angoisse. Tout ça, c'est positif. Mais ils étaient peut-être passés à côté de quelque chose. Hein. Pourquoi me cherchez-vous, leur dit Jésus? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Et il y avait là quelque chose que peut-être Joseph et Marie avaient oublié. Ben oui, cet enfant est consacré à Dieu, cet enfant est pour Dieu, cet enfant est de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Et il avait peut-être pas penser à le lui permettre, lorsqu'ils allaient à Jérusalem, de rencontrer l'élite des théologiens qui étaient là pour sa formation, pour trouver une réponse certainement à la soif spirituelle qui devait exister dans notre Seigneur quand il était enfant. Alors, je pense que c'est un point de repère là pour nous en 2022 par rapport à l'éducation. Nos enfants nous ont été confiés par Dieu, et le rôle principal de l'éducation des enfants, c'est de les faire grandir dans le Seigneur. Et c'est une responsabilité que nous autres parents nous avons, et qu'il ne faut jamais perdre de vue, hein, par rapport à d'autres aspirations qu'on pourrait avoir, ou même parfois l'impression que ben voilà, ce sont nos enfants, on fait ce qui nous semble bon pour eux, et on oublie qu'ils sont premièrement au Seigneur. Le monde dit les enfants appartiennent à eux-mêmes. On a développé des droits de l'enfant pour les protéger d'adultes qui seraient prédateurs. Nous nous disons les enfants sont au Seigneur premièrement, et notre responsabilité, c'est qu'ils puissent un jour grandir, devenir, comme il est écrit de Jésus, grandir en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes, pour qu'ils puissent vraiment rencontrer leur Créateur et le servir quand ils seront grands. Il y a également, bien sûr, quelque chose pour les enfants ici. Les enfants sont encouragés dans ce passage à être, c'est le mot soumis qui est utilisé, c'est être soumis à leurs parents, c'est-à-dire à les écouter, à faire ce que les parents disent. Si le roi des cieux et de la terre, c'est ainsi, si ce grand prince qui était Jésus-Christ, s'il s'était ainsi soumis à Joseph et à Marie, c'est un exemple pour tous les enfants. Bien évidemment, c'est un exemple pour tous les enfants, c'est incontournable. Hein. Et donc là, on a un autre point de repère pour les enfants, cela, pour les enfants. Voilà, j'irai pas plus loin. Conclusion. Aimons le peuple juif. Ne méprisons pas les pauvres. Honorons les personnes âgées. Attendons avec foi et sainteté le retour de Jésus. Ne soyons pas surpris par la souffrance. Évangélisons avec intelligence. Développons une vie de prière. Prenons soin de nos enfants, comme le Seigneur nous les a confiés. Amen. Bonne année 2022 à chacun.